La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. En avril dernier, nous avions consacré une tête au carré à l'addiction à l'alcool et nous avons été particulièrement surpris par le nombre de messages et de témoignages reçus pendant cette émission. Nous avons donc décidé de vous proposer un second volet pour évoquer plus en détail la dépendance à l'alcool, qui est une cause majeure de mortalité en France puisqu'elle est responsable de 10% des décès dans notre pays. Les idées reçues sont nombreuses concernant l'alcool. Il est important de les déconstruire. Il est également important de dire aux personnes qu'elles peuvent demander de l'aide et comprendre qu'il s'agit avant tout d'un problème médical et d'une maladie. C'est ce dont nous allons parler donc dans un instant avec mes invités. Vos questions, vos messages qui arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un fossile d'animal très vieux et surtout très bizarre.
Oui Mathieu, il a 550 millions d'années, ressemble à un pancake géant. On n'a aucune idée de ce qu'il faisait ou de comment il mangeait. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il s'agit d'un des plus vieils animaux trouvés sur la Terre.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne. Fanny Boyon réalise cette émission, préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, la dépendance à l'alcool, deuxième volet donc aujourd'hui avec mes invités, les psychiatres addictologues Fatma Bouvet de la Maisonneuve et Laurent Carilla. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Fatma Bouvet de la Maisonneuve. De plus en plus de femmes tombent dans le piège de la dépendance à l'alcool aujourd'hui.
Alors, de plus en plus consulte, parce qu'on n'a pas de chiffres précédents, mais effectivement, de plus en plus de femmes demandent de l'aide, et les femmes qui boivent ne sont absolument pas celles que l'on pense. On avait des préjugés, puisque nous parlions de préjugés au début de l'émission, sur le profil de ces femmes qui, en fait, se révèlent être les plus instruites, celles qui ont le plus de responsabilités managériales, professionnelles, voilà, et ce ne sont pas des femmes désocialisées, mais elles peuvent tomber dans la précarité, certes.
Laurent Carilla, le vin, une boisson protectrice de notre santé cardiovasculaire. Ça fait partie des idées reçues les plus populaires concernant l'alcool.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a longtemps été. En fait, on a suffisamment d'arguments scientifiques maintenant pour dire que c'est pas vrai. Le vin, c'est un alcool comme les autres. C'est bon. Il faut en boire avec modération pour ceux qui aiment ça. Mais ça protège absolument pas contre les maladies cardiovasculaires.
On va se retrouver dans un instant pour essayer de déconstruire tout ça et puis donner des clés également pour aider les personnes concernées avec les messages qui arrivent sur le site de l'émission. Axel, aujourd'hui à la une de la science, l'histoire du plus vieux fossile macroscopique.
C'est important, oui. Mathieu, Dickinsonia, vieux de 558 millions d'années, est un animal, on en est sûr maintenant, et ça faisait 70 ans qu'on avait des doutes.
Alors, on est très content pour lui, mais qu'est-ce que c'est que ce Dickinsonia exactement?
Alors, les Dickinsonia désignent une forme de fossile très bizarre qu'on a trouvé pour la première fois dans les années 40 en plusieurs endroits du globe. Ils ressemblent à des pancakes géants avec des stries. Ils peuvent atteindre plus d'un mètre de large. Ils ne devaient certainement pas faire ce bruit-là, mais ce sont des animaux, selon des analyses moléculaires faites par des chercheurs de l'université de Canberra. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec Emmanuel Javot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur ordinaire à la faculté des sciences de Liège, au laboratoire Première trace de vie, évolution et astrobiologie. Alors peut-être qu'avant de se pencher sur le cas de Dickinsonia, on peut peut-être décrire un peu son environnement. À quoi est-ce qu'elle ressemblait, sa Terre à lui, il y a 558 millions d'années?
Oui, il faut savoir que la Terre était un peu différente à cette époque-là, dans une période qu'on appelle les Diacariens. Les continents et les océans n'étaient pas les mêmes, n'étaient pas à la même place. On venait de fragmenter un supercontinent et on était en train d'en former un qui s'appelait Gondwana. Et donc on formait des chaînes de montagnes, il y avait des environnements différents de maintenant. Il y avait encore assez peu d'oxygène dans l'atmosphère et dans les océans, plus qu'avant, mais beaucoup moins que maintenant. Donc il y avait des zones oxygénées, d'autres pas. Il y avait des parties de continents émergés, mais ces continents étaient couverts de vie microbienne, de tapis microbiens. On n'avait pas encore de plantes ni d'animaux qui se baladaient à la surface des continents.
Donc la vie est dans les océans.
Surtout dans l'eau. Oui, voilà. La vie était surtout dans l'eau, peut-être dans les lacs, mais aussi surtout dans les océans. Dans les océans, on a déjà une vie diversifiée. On a déjà les trois domaines de la vie, donc les bactéries, les archées et les eucaryotes. Et on a de la vie qui vit attachée au fond marin. des algues macroscopiques, microscopiques, des éponges, peut-être des champignons, toutes sortes d'amibes différentes, donc des protistes. Dans le plancton, on a beaucoup de cyanobactéries, on a aussi des algues microscopiques. On a aussi une vie multicellulaire avec des macroscopiques avec des éponges, ces fameuses faunes des diacaras qui sont un peu bizarres, dont on va parler, et des récifs construits par des microbes, mais aussi des premiers animaux qui font des squelettes calcifiés. Donc on a une biosphère un peu différente, mais qui annonce ce qui va suivre après.
Et dans les années 40, du coup, on trouve dans des roches qui ont cet âge des fossiles très bizarres. On les prend pour des lichens ou des amibes. Mais maintenant, on les classe parmi les animaux et ça devient le plus vieux fossile macroscopique d'animal. Qu'est-ce qui permet d'affirmer aujourd'hui que Dickinsonia est un animal alors ?
Oui. Cette hypothèse-là a déjà été suggérée auparavant en étudiant la morphologie Dickinsonia. La découverte dont on parle aujourd'hui, c'est la découverte de molécules fossiles, qu'on appelle les biomarqueurs. Donc ce sont des molécules qui sont particulières, qui ne sont produites que par des animaux et des organes minicellulaires qui sont ancêtres de ces animaux. Et donc ces molécules fossiles préservées dans les fossiles et pas dans les sédiments autour des fossiles, donc ils pensent que il s'agit bien de molécules produites par ces fossiles.
Donc c'est des molécules qui ont été produites par ces animaux. C'est quoi ? C'est des graisses ? C'est de la sueur ? Est-ce qu'on peut le dire ?
Ce sont des lipides, oui. Ce sont des lipides qui ressemblent à du cholestérol, comme on a tous.
Ouais.
Mais un peu transformés par la fossilisation et un peu particuliers et différentes sortes de cholestérol. Et ceux-là sont produits par les animaux et de nouveau une sorte de protiste, donc d'organes minicellulaires. Liés ancêtres des animaux.
C'est bon à savoir que du cholestérol peut se conserver si longtemps, ça veut dire que si on se fossilise, on aura peut-être beaucoup de chances d'être retrouvé dans 550 millions d'années alors.
Voilà, tout à fait. Les plus vieux cholestérols sont encore plus vieux que ça, ils ont 800 millions d'années, et puis encore d'autres lipides qui sont préservés il y a jusqu'à 1 milliard 600 millions d'années, mais pas d'animaux, là, évidemment.
Alors,
il y a quand même une petite complication à propos de ces fossiles moléculaires, c'est que ils ont une forme particulière en trois dimensions. Donc les molécules, elles peuvent avoir une forme en trois dimensions. Et quand on étudie ces molécules animales d'organismes vivants, on trouve une seule forme en trois dimensions de ces molécules. Et puis quand on les étudie fossiles, on trouve un mélange parce que ces molécules ont été transformées par la fossilisation. Or ici, ces molécules fossiles d'animaux, on n'en trouve qu'un type, qu'une configuration en trois dimensions. Et ça, c'est particulier. Et d'autres chercheurs pensent que c'est lié au microbiote des animaux, donc les micro-organismes qui sont dans les intestins, dans les nôtres aussi d'ailleurs, et qui dégradent nos molécules ou les molécules des animaux quand ils meurent, qui les transforment et qui laissent une signature un peu particulière. Donc les fossiles dont on parle aujourd'hui sont des restes d'animaux de ce Dickinsonia, de ce fossile, mais ils auraient pu aussi être altérés par le microbiote de Dickinsonia, mais ça on n'en sait rien encore.
Alors on fait très attention depuis tout à l'heure à dire le plus vieux fossile animal macroscopique, ça veut dire que c'est pas les plus vieilles traces de vie animale. À quand est-ce qu'elles remontent ces plus vieilles traces ?
Oui, en fait, les horloges moléculaires, donc les biologistes qui étudient le vivant en fonction du génome des vivants, ils projettent que les animaux sont apparus il y a déjà 800 millions d'années.
Ah oui.
Par contre, on n'a pas encore de traces fossiles de ces animaux si vieux, mais on a des traces fossiles moléculaires, cette fois-ci d'éponges, à plus de 635 millions d'années. On a des traces microscopiques de fossiles, d'embryons d'animaux, à 600 millions d'années. Et puis on a aujourd'hui Dickinsonia, qui est apparemment un animal grâce aux molécules qui sont préservées dans ce fossile.
Merci beaucoup.
Même si ce genre de fossile, en fait, n'est pas préservé de façon organique. On n'en a que des empreintes. Et ce qui est spécial ici, c'est que les chercheurs ont trouvé de la matière organique associée à ces fossiles et donc ont pu extraire des molécules fossiles de cette matière organique et qui a une signature d'animaux.
Merci beaucoup Emmanuel Javot pour ces précisions donc autour de Dickinsonia, plus vieux fossile animal macroscopique. Merci beaucoup et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le glyphosate au centre d'une publication sur le déclin des abeilles. Des chercheurs du Texas se sont penchés sur les effets de ce désherbant censé être inoffensif pour les animaux. Et en étudiant des abeilles saines et des abeilles exposées au glyphosate, ils montrent que les insectes qui ont été en contact avec le désherbant ont un microbiote intestinal différent, bien moins résistant aux infections opportunistes. Selon eux, le glyphosate participe donc bien au déclin des abeilles domestiques et sauvages dans le monde. Reste maintenant à savoir quand viendra son interdiction. La jeune planète Mars était propice à la vie souterraine. Selon une équipe internationale, notre voisine rouge aurait disposé il y a 3 milliards d'années d'assez d'énergie chimique pour soutenir les mêmes types de colonies microbiennes souterraines que celles qui existent sur Terre. Des écosystèmes microbiens souterrains composés de bactéries et de champignons qui occupent les pores des grains minéraux de la roche sur Terre. Les auteurs expliquent que les concentrations d'hydrogène dans la croûte martienne il y a environ 4 milliards d'années étaient similaires à celles qui soutiennent des microbes abondants sur Terre aujourd'hui. Et puis on termine en vidéo avec un papillon téméraire, un papillon de nuit perché sur le dos d'un passereau en train de boire ses larmes à l'aide de sa longue trompe. La scène est filmée dans la forêt amazonienne en pleine nuit. Elle dure plus de 45 minutes. Selon le biologiste qui détaille son film dans la revue Ecology, le liquide lacrymal de l'oiseau constitue une source importante de sodium et de protéines pour l'insecte. Si l'oiseau se laisse faire, c'est qu'il est à demi conscient et qu'il est en train de se faire subtiliser ses larmes. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur la page Facebook de l'émission. La dépendance à l'alcool, notre dossier dans un instant. Lighten Up, Parcells à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
La dépendance à l'alcool, dossier de l'émission donc cet après-midi, la suite d'ailleurs d'une première émission que nous vous avions proposée en avril dernier. Fatma Bouvet de la Maisonneuve, vous êtes psychiatre et addictologue et vous êtes aussi donc présidente de cette association Addictel.
Absolument.
Dans l'objectif et la sensibilisation et la prévention donc des addictions en particulier auprès des
chez
femmes.
Chez les femmes, hein. Oui, ouais. Tout à fait.
Et en 2008, vous avez publié « Les femmes face à l'alcool » chez Odile Jacob. Laurent Carilla, psychiatre, vous travaillez au Centre d'enseignement de recherche et de traitement des addictions à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et vous sortiez en avril cet ouvrage « Idées reçues sur l'addiction à l'alcool ». Comprendre et sortir de la dépendance aux éditions Le Cavalier Bleu. Et beaucoup de messages et de questions arrivent déjà sur le site de l'émission. D'ailleurs, je voudrais vous donner déjà un premier message, celui de Anne, qui nous dit ceci. Le problème de l'alcool est sérieux, c'est une addiction. L'individu se détruit sa famille, son entourage. Il lui faut sa dose journalière. Il utilise tous les moyens pour avoir cette dose. Pour s'en sortir, c'est énormément de soutien, de volonté. L'entourage ne doit pas baisser les bras et être présent. Courage à celles et ceux qui vivent cela, nous dit Anne. Voilà. Je voulais ouvrir l'émission avec ce message parce qu'il est à la fois, évidemment, très factuel hein, sur la situation des personnes et de l'entourage qui vivent évidemment ces problèmes, mais aussi plein d'espoir, Fatma.
Ah oui, complètement. Il faut vraiment expliquer que d'abord, c'est une maladie. Hein. Je pense que vous avez ouvert l'émission en disant que c'était une maladie. Et à partir du moment où on comprend cette dimension pathologique, ça diminue de moitié, ouais, justement, la charge anxieuse et de culpabilisation par rapport à ça.
On parle plus de l'ivrogne aujourd'hui. Hein. On parle d'un malade.
Oui, mais l'opinion publique et les idées reçues, justement, tournent autour de la question de la tare, du vice, les patientes en particulier, qui viennent nous voir, nous disent qu'on les a toujours traités de pochetronnes, que c'était un vice, et que c'est pour ça ce qui me gêne un petit peu dans ce message-là, c'est la question de volonté, c'est que les proches leur disent, bah, écoute, si tu veux, tu peux. Or, non, c'est précisément ça, cette maladie, c'est une maladie de bien plus complexe, et ça n'est pas si tu veux, tu peux, il faut un accompagnement, je crois que c'est ce que disait la dame hein, dans votre ouais, message, hein, ouais, c'était une maladie de la volonté. Après, c'est vrai que tout l'environnement est à prendre en compte dans l'accompagnement et dans la prise en charge, et j'espère qu'on arrivera tout à l'heure au débat sur le contexte dans lequel vivent les femmes qui boivent et ce qui parfois les pousse à boire, et cet environnement est très important à prendre en charge dans l'accompagnement.
Laurent Carrière. Oui, c'est complètement. L'addiction, cette réflexion, c'est une réflexion générale finalement. Moi, j'ai tendance à dire, on s'en fout des produits maintenant, on s'en fout des comportements. L'addiction, c'est une maladie, quel que soit le substrat. Et c'est vraiment une maladie d'interaction entre... C'est une maladie environnementale, en fait, l'addiction avant tout. Et il y a nos gènes qui interagissent, et il y a notre développement personnel qui interagit avec. Et en fait, bah, il faut aider les gens, mais il faut aider aussi la famille.
Ouais, avec cette substance psychoactive qui est la plus utilisée, finalement, l'alcool. Hein.
Oui, vas-y.
C'est une substance, qui est très très présente, je dirais. Surtout, dans notre pays, c'est une substance qui est très acceptée, et socialement acceptée. Donc, c'est comme le tabac.
Ouais. À partir de combien de verres on considère que quelqu'un, finalement, est tombé dans l'alcool? Parce qu'on se posait la question tout à l'heure au bureau, en train de dire, mais oui, il faut en consommer deux par semaine, oui, régulièrement, ou une fois de temps en temps?
Alors, c'est vrai que c'est une question que les patients nous posent souvent. Il n'y a pas de curseur, puisque les tableaux sont très, très différents. Et la définition que les patients comprennent le mieux, c'est le fait de ne plus pouvoir s'abstenir, de perdre la liberté de s'abstenir. Mm-hmm. Et cette idée selon laquelle l'alcool parasite sans cesse votre vie, que ce soit la journée ou la semaine, parce que vous pouvez avoir un comportement anormal avec l'alcool. C'est intéressant les propos des patients, parce qu'ils vous disent eux-mêmes, j'ai une relation anormale avec l'alcool. Alors, est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois tous les 3 mois? Mais n'empêche que je pense à cette cuite que je vais me prendre une fois tous les 3 mois et où je vais m'enfermer dans mon appartement seul pendant 3 jours à être très mal. Mais c'est une idée qui occupe un espace mental, vous voyez ? Donc c'est important de dire qu'il ne s'agit pas uniquement de verre. Moi, j'ai des patientes qui me disent, je me lève le matin, je ne pense qu'à une seule chose, à mon verre de Bourgogne du soir, vous voyez ? Donc c'est déjà que votre rythme, le rythme de la journée dépend de cette idée-là, ou de l'apéro avec les copines.
C'est ça. En fait, maintenant, on parle de troubles liés à l'usage d'alcool. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères qui font qu'on dit, voilà, il y a un usage d'alcool. Et est-ce qu'il est pathologique ou pas? Il y a un certain nombre de critères. Et c'est vrai que quand on retrouve, il y a un critère comme le dit Fatma, la perte de la liberté de s'abstenir, c'est un critère fort, c'est l'envie irrésistible de consommer. C'est un critère fort d'addiction. Mmh. Et après, il y a d'autres symptômes, comme augmenter les doses, être en manque, et aussi avoir des conséquences de sa consommation.
Et Florence qui nous écrit, quand mon cher et tendre retrouve des copains le week-end, c'est à coup sûr pour s'enivrer, certes plutôt dans une bonne ambiance. Il peut aussi s'enivrer de la même façon en semaine si l'occasion se présente. Il s'est calmé suite à une belle colère de ma part. Est-il pour autant alcoolique? Il est persuadé que non, nous dit Florence.
Moi, je dis à Florence, il a un trouble lié à l'usage de l'alcool, pour probable, et après il faut évaluer l'intensité. C'est-à-dire que plus on va trouver de symptômes, plus on va voir comment on peut agir au niveau thérapeutique.
Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est que je pense que ce qui est très important pour les soignants, les médecins, nous, et de faire comprendre aux patients, c'est que le premier entretien et l'examen clinique est très important. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là où on pourra à peu près dire si le patient a une maladie alcoolique ou s'il n'est pas alcoolique et qu'il est à surveiller. Voyez. Donc on ne peut pas, à partir d'un message comme ça, dire oui ou non. Hein. Le boulot du médecin, c'est quand même d'aller au fond de l'histoire du patient, au fond de la symptomatologie, et de pouvoir s'orienter soi-même vers est-il malade ou pas. Voilà.
Laurent Carilla, on a quand même un problème culturel en France. Hein. C'est celui de notre rapport tout simplement à l'alcool. Parce que grand pays viticole, évidemment, donc on est quand même une société qui tolère très très bien l'alcool et qui la valorise aussi en permanence.
Oui, c'est complètement valorisé.
Donc c'est difficile d'avoir des discours aussi de santé publique dans ce contexte-là.
Mais il faut justement changer le discours. Il y a ces questions aussi de lobby, on n'en parlera pas, mais il y a la puissance du lobby alcoolier, lobby viticole, etc.
Ouais,
qui touche les femmes. Bien sûr, il y a un business centré sur les femmes, il y a un business centré sur les jeunes, il y a différentes formes d'alcoolisation. Je veux dire, il y a le binge drinking chez les jeunes, l'alcoolorexie chez certaines jeunes qui veulent maigrir.
L'alcoolorexie, c'est
la contraction d'alcool et anorexie, en fait. C'est-à-dire que ce sont des jeunes lycéennes qui, et maintenant c'est très très arrivé.
Qui boivent pour ne plus manger?
Ouais, elles se mettent à jeun.
Calories, en fait.
Ouais, elles se mettent à jeun. Et en fait, l'effet de l'alcool est beaucoup plus rapide. C'est du binge drinking chez des gens qui jeûnent, chez des filles qui jeûnent. Et en fait, c'est drivé, c'est médié par une image des réseaux sociaux, en fait. Elles doivent être minces comme les stars qu'elles aiment.
Avec beaucoup donc d'idées reçues, évidemment, véhiculées autour de l'alcool. On va écouter d'ailleurs cette archive qui date de 2011 sur une étude qui est sortie sur les bienfaits de la consommation modérée de vin. Étude de l'université de Bourgogne, par hasard.
Une trentaine de patients victimes d'un infarctus du myocarde ont été, durant leur convalescence, séparés en deux groupes. Nourriture identique pour les deux, mais l'un consommait du vin rouge, l'autre de l'eau. L'étude, réalisée par un laboratoire de l'Université de Bourgogne, a montré tous les effets bénéfiques du vin sur des cœurs fragiles. Il y a ce qu'on savait déjà, mais aussi une nouveauté.
Ça confirme que le vin permet de faire baisser le taux de cholestérol dans le sang, augmente le pouvoir antioxydant, mais ce qu'on a montré de nouveau, c'est que ça augmente la fluidité des cellules sanguines et donc une meilleure circulation de ces cellules à travers le corps.
Pour autant, pas question d'avoir une consommation excessive de vin. Pour ne bénéficier que de ces bienfaits, il faut rester modéré.
Concernant la dose, on s'est fixé déjà dans les normes de l'OMS. Les normes de l'OMS disent qu'il ne faut pas dépasser 3 verres de vin chez les hommes par jour et 2 verres chez les femmes. Ici, donc, c'est une consommation de 2 verres.
Alors, Fatma Bouvet de la Maison Lèze, un commentaire sur une étude scientifique comme ça, on se dit, ben voilà, finalement, la science nous dit que, allez, un petit verre de temps en temps, il y a quelques bienfaits potentiels sur la santé. Et là, on les met en valeur. C'est dangereux, ça, ou pas?
Ben oui, c'est dangereux. Et d'autant qu'on a deux récentes études, celle de Lancet qui dit qu'à partir d'un verre, l'alcool peut être dangereux. Il y a une étude récente également de l'OMS qui parle du nombre de morts dans le monde qui est lié à l'alcool. Donc, je pense qu'il n'y a plus du tout de discussion aujourd'hui au sein du corps médical.
Il y a un consensus absolu là-dessus.
Évidemment, il y a 49 000 morts par an liés à l'alcool. Je vous disais hors antenne que les femmes, par exemple, perdaient 20 ans de leur vie lorsqu'elles étaient malades et qu'elles avaient un trouble malade d'alcool plus trouble mental. Je pense que les complications sont suffisamment importantes pour qu'aujourd'hui il n'y ait absolument plus de discussion sur le caractère dangereux de l'alcool.
Laurent Carilla.
Complètement. C'est dangereux l'alcool, ça c'est sûr. Après, il y a les histoires, faut pas affoler tout le monde et dire ne buvez plus, parce qu'après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a quand même des conséquences sur la santé physique, sur la santé mentale et sur la santé sociale. Il y a une autre chose, il y a les recommandations maintenant, c'est 2 verres jour en fait. On n'est plus dans la norme OMS, 3 verres jour chez l'homme.
C'est moins.
Ouais, c'est beaucoup moins maintenant.
Ouais. Et vous êtes content finalement de ces messages? Est-ce qu'ils sont entendus?
C'est des messages importants. En tout cas, c'est des messages qu'on transmet nous en prévention dans les écoles. C'est des messages qu'on transmet dans les universités. C'est des messages qu'on transmet à nos patients et nos patientes. Moi, j'ai un nombre croissant de femmes qui viennent me voir pour des consommations pas que d'alcool, mais il y a l'alcool qui est là, quoi.
Une beuverie en soirée, ça n'est pas dangereux quand on est jeune. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette idée reçue ?
C'est précisément le problème qui est en train de se poser, c'est-à-dire que la consommation d'alcool en France est en train de diminuer. En revanche, la consommation d'alcool par les jeunes et par les femmes est en train d'augmenter. Alors, je ne pourrais pas vous dire non, parce que les complications peuvent être extrêmement dangereuses, y compris être fatales dans ce contexte-là.
Et rappelons que plus on consomme précocement beaucoup, plus ça attaque le cerveau qui n'a pas fini sa puberté.
Mmh. Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion sur la dépendance à l'alcool.
Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. T'allas voir bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre. Mon cœur, sous le ciel noir de sang. Go Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin cours, allez, vas-y. On dirait que l'enfer entier est à nos trousses. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là quelque part. Non, ne te retourne pas. Rien, vite, suis-moi mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol sous nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. L'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
Ginger, c'était Feu Chatterton.
La tête au carré. Sur France Inter.
Voilà, avec Fatma Bouvet de la Maison Neuve, Laurent Carré, la psychiatre addictologue, pour nous parler de la dépendance à l'alcool. Beaucoup de messages encore, des témoignages très nombreux sur le site de la Tête au Carré, sur Facebook également et les réseaux sociaux. Il y a Valérie qui nous écrit ceci. Cette consommation d'alcool est une vraie plaie. Je suis CSP+, alcoolodépendante, psychothérapeute, qui sait et ne se fait pas aider. Une vraie catastrophe faite d'orgueil, de honte et de mépris de moi-même.
Bah écoutez, c'est exactement le profil que je rencontre régulièrement. Je pense qu'il faut vraiment contextualiser les choses. Du fait de mon expérience, je pense qu'il faut placer cette maladie alcoolique chez les femmes dans ces nouveaux troubles qui existent aujourd'hui chez les femmes, c'est-à-dire le surmenage, c'est-à-dire une pression sociale importante, l'envie d'être parfaite, d'être au taquet sur tous les plans, sur le plan privé, sur le plan professionnel, une sorte de violence quotidienne psychologique qu'elles reçoivent, discriminées, moins payées, se surinvestissant dans leur travail en n'étant pas reconnues. Tout ceci est de la véritable violence psychologique que elles seules reçoivent et dont on se rend pas compte. Et elles vous expliquent très clairement que cette tension qu'elles entretiennent toute la journée pour tenir la route, pour faire ce qu'il faut, pour être parfaite sur tous les plans, eh bien, il n'y a qu'une seule une seule possibilité justement de décompresser, d'exprimer une sorte de faille. C'est cette décompression grâce à l'alcool qui est le premier anxiolytique accessible sans ordonnance. Et donc, ces profils-là, on les rencontre de plus en plus. Ce que dit cette dame, c'est ce qu'on entend tous les jours au cabinet. Donc, on relativise les choses, on prend les choses au sérieux et on prend les choses dans leur globalité. Il y a deux plans. Le premier plan est celui de la prise en charge de la maladie. C'est une vraie maladie, on la prend en charge, on fait un diagnostic, on cherche s'il y a des éléments de dépression, de troubles anxieux qui sont très fréquents chez les femmes. Et on leur dit, voilà, il y a une urgence médicale, on la traite. Ensuite, il y a tout cet accompagnement de comment s'assumer en tant que, moi je les ai appelées des hyper-femmes, en tant que femme, comment avoir confiance en sa féminité, comment bien la porter, comment se réaliser, comment réaliser ses désirs. Ce qui est intéressant avec les femmes qui boivent, c'est que vous sentez toujours qu'elles sont un petit peu étriquées, dans un costume étriqué, qu'il y a un désir profond qui a été contrarié à un moment. Et c'est pour ça que le premier entretien est important, c'est qu'on cherche à savoir le parcours de ces femmes, où est-ce qu'elles ont été contrariées. Et à ce moment-là, eh bien, on les aide d'une certaine façon, et ce sont leurs mots, à se défoncer autrement qu'à travers un produit artificiel qui serait l'alcool, la coke également de temps en temps maintenant dans certains milieux. Mais c'est ça qui est passionnant avec ces femmes-là et ces profils de femmes-là. Et il faut qu'elles en parlent. Nous sommes là pour les écouter. J'ai envie de dire, rien de ce qui est féminin ne m'est étranger et ne nous est étranger pour certaines équipes. Ce lien de l'alcool avec l'intimité féminine est passionnant à prendre en charge, mais il faut aussi qu'il puisse s'exprimer. Elle vous parle de honte. Pourquoi est-ce qu'elle parle de honte ? Parce que ça suppose tout ça. Parce que ça suppose une intimité à la fois psychologique profonde, mais une intimité de sa vie quotidienne. Et là, il faut qu'on puisse en parler. Et ça s'arrange.
Laurent Carilla, beaucoup de femmes aussi dans votre consultation avec le même type de profil que celui décrit par Fatima.
Ouais, moi, j'ai toutes les classes sociales qui viennent me voir, enfin qui viennent en consultation avec c'est vrai, une addiction à l'alcool isolée, c'est rarissime et on a souvent des troubles mentaux, des troubles psychologiques associés, comme disait Fatima, des troubles dépressifs, des troubles anxieux, on peut avoir d'autres choses.
Il y a souvent
d'autres co-addictions et là, je voudrais dire un autre truc, c'est que ces femmes-là aussi, que je vois, elles sont en surconsommation d'anxiolytiques. Et ça, faut en parler, parce que c'est un autre problème qui se rajoute.
Avec l'association alcool-anxiolytique.
Alcool-tabac-anxiolytique, alcool-tabac-cannabis-anxiolytique. Après, on peut faire plein d'équations comme ça.
Ouais, les troubles du comportement alimentaire aussi, qui sont souvent associés.
On va écouter la voix de Valérie, qui figurait dans un reportage de Zone Interdite en 2014 autour des femmes, justement les nouvelles victimes de l'alcool.
Valérie est née dans les années 60 à Vichy. Son père, routier, et sa mère, boulangère, n'ont jamais eu de problème d'alcool. Après une enfance sans histoire, Valérie devient une jeune fille pleine d'ambition. Son bac en poche, elle se découvre un talent pour l'écriture et décroche une bourse dans un concours. Elle devient libraire et s'imagine alors vivre de sa passion. Mais sa rencontre avec l'alcool a ruiné ses projets.
J'ai besoin là de prendre une bière, mais réelle. Je sais pas comment dire, c'est comme une grosse peur. Tu sais, tu te chopes une trouille et tu marches dans la rue. Il fait nuit, t'as quelqu'un qui te bouscule ou t'as une montée de trouille que t'expliques pas. T'as pas le temps d'expliquer puisqu'elle disparaît aussi vite qu'elle est arrivée, sauf qu'avec l'alcool, ça monte et ça redescend pas. Tant que tu as pas bu.
Comme pris de panique finalement.
Ah mais c'est complètement ça. Là comme ça à vif, et je voudrais m'en débarrasser en même temps. J'ai une grosse trouille, c'est que je fonctionne comme ça depuis tellement longtemps que je sais pas du tout quand ça va s'arrêter, si comment je vais faire.
Voilà Laurent Carrière, le vertige finalement d'arrêter. Hein. Ouais, c'est ce qu'on entend aussi dans ses peurs.
Mais on est quelqu'un qui est addict, et c'est valable pour toutes les addictions, mais on va prendre, ici c'est le sujet de l'alcool, c'est quelqu'un qui est addict, il est malade, son cerveau, les circuits du cerveau sont complètement déréglés, il faut tout rééquilibrer avec des traitements médicamenteux, psychothérapeutiques, des traitements de groupe, etc. C'est-à-dire que l'alcool va médier les choses, parce que le circuit du cerveau qui gère le contrôle et qui gère la récompense, dit, moi, l'alcool, ça m'a fait du bien les premières fois, vas-y, 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 vas-y. Et quand il n'y en a pas, ben, il y a des symptômes de tristesse, etc.
Fatima Bouvet de la Maisonneuve.
Oui, j'avais envie de réagir là-dessus parce que c'est important aussi que les personnes qui nous écoutent comprennent que l'alcool est antidépresseur et anxiolytique à très court terme, mais qu'à moyen et à long terme, il est tout l'inverse. Il est dépressogène et anxiogène. Et c'est un petit peu ce que décrit cette femme, c'est-à-dire que on a l'impression de s'automédiquer de façon sur l'instant, mais on ne fait en fait que s'enfoncer. Et ce qu'elle dit également, c'est cette peur d'être en manque. manque. Ça fait partie des raisons pour lesquelles certains patients rechutent, même si on leur explique qu'ils sont tout de même sous des traitements qui les pourrait les protéger de ce manque-là. Et c'est le phénomène de la dépendance, effectivement, dans toute sa splendeur que l'on doit accompagner avec les moyens du bord, qui sont réduits, il faut quand même le dire. Hein. Nos moyens thérapeutiques médicamenteux ne sont pas très nombreux.
C'est-à-dire très limité aujourd'hui de donner une réponse efficace.
Oui, nous disposons absolument pas de traitement miracle et donc l'accompagnement l'accompagnement psychothérapeutique et très souvent social, puisque moi je parle des femmes, social et parfois même administratif et judiciaire, est très important pour qu'elles aillent mieux.
Est-ce qu'on arrive à estimer le taux de réussite justement
chez les personnes? On estime à 50%.
40 à 60%.
C'est pas mal pour une maladie chronique, absolument, tout à fait. C'est plutôt bien, et donc c'est un message plutôt d'espoir pour les patients qui pensent qu'une fois qu'on rechute, et ben, le parcours est terminé. Non, pas
c'est
du
ça,
tout.
Avec ah, des oui, parcours très chaotiques, et c'est normal, ça fait
c'est
partie
une maladie
aussi
chronique qui est jalonnée de rechutes, il ne faut pas les dramatiser, il ne faut surtout pas se cacher, il faut venir nous le dire. Plus tôt on prend en charge la rechute et meilleur sera le pronostic. Non, il ne faut absolument pas se décourager, on est là pour ça.
Laurent Carrière. Oui,
l'addiction, c'est une maladie qui évolue par rechute. Et on va... les familles peuvent être découragées dès le départ parce que ça repart. Mais il faut vraiment s'accrocher et c'est normal de rechuter.
Flora nous dit, je pense qu'il est très difficile d'évoquer ce problème avec un proche alcoolique. C'est très tabou, tout le monde le sait, personne n'ose rien dire de peur de braquer la personne concernée.
On a des techniques pour ça, il y a des techniques, il faut s'aider de... c'est vrai que c'est compliqué quand on voit quelqu'un qui est malade dans au sein de l'unité familiale et se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, on va rien dire. On peut se faire aider des médecins généralistes, on peut se faire aider d'un autre proche indirect. Et puis il y a aussi des consultations d'évaluation juste pour voir. Moi je dis « just for check ». On y va juste pour voir ce qui se passe.
Et puis il y a aussi ce que vous faites là, c'est-à-dire le fait de rendre public le sujet et de faire savoir à l'opinion publique générale que c'est une maladie. Du coup, effectivement, les patients sont moins fliqués, sont moins jugés, sont plutôt poussés à aller demander de l'aide. Et d'ailleurs, nous, on reçoit les familles, moi je reçois des familles, les proches, qui cherchent à savoir.
Karim nous dit « J'ai 9 tentatives de soins liées à ma consommation d'alcool, mais ce qui me contrarie, c'est l'uniformisation des traitements alors que nous avons tous des parcours différents.
Mmh. » Ouais, personne n'est pareil.
Ça, c'est un des écueils, vraiment.
Personne n'est pareil, mais tout le monde a la même maladie.
Tout le monde a le même traitement.
Non, c'est des traitements qu'on adapte maintenant quand même globalement. Au niveau pharmacologique, au niveau médicamenteux, il y a plein d'options. On va utiliser les options les unes après les autres.
Pourtant, ce que critique Karim, c'est l'uniformisation des traitements.
Mais si vous voulez,
ça dépend ce qu'il a eu.
Le sevrage en lui-même, la désintoxication, elle est très très standardisée. Je veux dire, c'est de l'eau, des vitamines et des anxiolytiques. Ça, c'est standardisé avec une prise en charge psychologique motivationnelle. Mais après, il y a d'autres approches. Et puis, il y a les groupes. Et puis moi, je fais la promo des patients experts parce qu'ils doivent rentrer dans la prise en charge des gens. C'est-à-dire que ce sont des anciennes personnes qui ont connu les addictions et ils font partie maintenant intégrante des traitements des patients.
Et les médecins les accueillent à bras ouverts?
Bon, en tout cas, moi, je les accueille à bras ouverts et ils participent tous à mon DU d'addictologie pour être formés.
Fatma Bouvet de la Maison
Neuve. Oui, non, ce que je voulais dire, c'était ce qui était passionnant dans notre métier de psychiatre, c'est précisément que les individus ne se ressemblent pas. Et donc, que je sache, il n'y a pas d'uniformisation de prise en charge psychothérapique de patients.
Allez, nous aussi, on vous accueille à bras ouverts avec vos messages sur franceinter.fr.
Qui monte au ciel, c'est... Les lanternes qui se voilent sont de petites étoiles qui pâlissent tour à tour.
Dans le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente.
Les plus beaux rêves d'amour.
Oh bien, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élèves au paradis artificiel. Je vois le doux visage, les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image dans ton nuage fumé.
C'était Louis et Virginie Ledoyen à l'instant.
La tête au carré.
Avec nos invités Fatma Bouvet de la Maisonneuve, Laurent Carilla pour parler donc de la dépendance à l'alcool avec vos très nombreux messages sur le site de l'émission. On va consacrer d'ailleurs les dernières minutes de cette discussion à vos témoignages, à vos questions, questions justement d'Alice, un conseil pour amener quelqu'un à consulter ou les comportements à adopter pour l'accompagner dans sa prise de conscience d'addiction. Il y a énormément de questions des proches et de l'entourage. Hein.
Oui, mais il faut expliquer que d'abord, effectivement, le premier interlocuteur peut être le médecin traitant. Par la suite, il y a des centres, les XAPA, qui sont un petit peu sur toute la France. Il faut se renseigner, la difficulté, c'est de franchir le pas, hein. Et donc à partir du moment où vous mettez le pied dans le circuit médical, vous êtes rapidement orienté. Il faut faire confiance au circuit de soins.
Laurent Carilla.
Et les patients experts.
Ouais.
Contactez les patients experts. Il y a des groupes sur Facebook, ouais. Tous les groupes.
Ça a complètement changé la prise en charge, justement, ça, des patients.
Mais
ça commence,
en fait. Cette notion de patient expert, elle existait pour le VIH, bien, pour le diabète.
Ça commençait vraiment avec le sida, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Et là, on est sur une analogie addiction, hein. C'est pas que alcool, c'est addiction. Et comme l'alcool est un des premiers problèmes, vraiment, les patients experts peuvent aider justement ces familles, parce que justement, ce ne sont pas des médecins, mais ils ont une expertise dans le domaine de l'addictologie et ils se sont formés pour ça. Donc il faut aussi donc utiliser le médecin traitant, mais aussi les associations et les patients experts.
Betty nous dit, nous sommes des proches de malades, nous vivons dans l'ombre, la honte et souvent le sentiment de culpabilité. Pour un malade, 5 à 7 personnes souffrent autour. Dépression, suicide, surendettement, absolument, violence, absolument. Difficulté des enfants. Il est urgent de prendre conscience de la vie des proches et de nous aider également. Un numéro de téléphone national pour les proches qui sont seuls se révélerait indispensable.
Il y a des numéros de téléphone, moi je les ai pas en tête, hein, mais je vous ai donné le nom des alcooliques anonymes qu'on peut contacter. Et puis
il y a Alanon aussi qui aide
les familles. Donc vous pouvez trouver ça sur internet et effectivement les répercussions sur la famille sont très importantes et c'est la raison pour laquelle je pense que notre rôle aussi de médecin est d'écouter les familles, de leur expliquer et aussi de les orienter.
Camille nous dit, ma mère est alcoolique depuis 18 ans environ, c'est une personne intelligente, j'ai l'impression que les psychiatres qui s'occupent d'elle sont bernés par ses mensonges et ne comprennent pas son mécanisme. À vrai dire, j'ai l'impression de mieux comprendre le mécanisme de l'alcoolisme que j'aimerais savoir si une solution est possible et quel centre pourrait la sauver. Alors Laurent Carilla,
je pourrais la sauver. Amenez-moi votre maman.
Alors évidemment, est-ce que vous êtes berné parfois par vos patients? Est-ce qu'ils arrivent à...
Il y a déjà le truc principal pour aider un patient, c'est une très très bonne alliance thérapeutique et être plutôt dans l'empathie forte. Alors c'est des clichés, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que plus le patient ou la patiente accroche à vous, avec vous, et vous vous accrochez avec elle, déjà c'est vraiment une première étape, il y a 40% du travail qui est fait. Après, il faut s'accrocher. C'est pour toutes les addictions pareil, il faut s'accrocher. Moi je leur dis d'emblée, écoutez, ce matin en consulte, j'ai vu des patients qui avaient des problèmes avec l'alcool, des patients qui avaient des problèmes avec la coke. Je leur dis, voilà, ils venaient pour la première fois. Je leur dis, il y a au moins un an de suivi.
Il y a aussi autre chose, c'est que nous savons que le fait de cacher fait partie de la maladie. Et donc moi, ce que j'explique aux patients, c'est que nous commençons notre travail dans une situation de confiance bilatérale, mais que je garde toujours dans un coin de ma tête que le patient ne veut pas me dire toute la vérité. Du coup, personne n'est berné dans l'affaire. À partir du moment où vous dites tout dès le départ, personne n'est berné. Et à ce moment-là, le patient vous dira, voilà, j'ai bu plus que de mesure ou j'ai rechuté. Voilà, l'alliance thérapeutique, le bon transfert sont effectivement des conditions d'une bonne prise en charge. Mais on a toujours dans un coin de notre tête que comme ça fait partie de la maladie, la question de ne pas dire la vérité ou de cacher comme on cache à sa famille, on cache à son médecin parce qu'on ne voudrait pas décevoir le médecin. Ça, c'est très important aussi à dire. C'est pas à nous qu'on doit rendre des comptes, c'est pour lui, c'est pour le patient. Donc, comme il a bu, rechuté, il voudrait pas venir et vous dire, docteur, j'ai rechuté parce que je ne voulais pas vous décevoir. Non, ça n'est pas ça la question. La question, c'est qu'on vous accompagne, y compris dans la rechute.
Laurent Carilla.
Après, il y a la biologie qui peut tout dépister. Donc, je veux dire, au niveau alcool, les premières répercussions sont hépatiques sur le foie. Donc, c'est très, très facile de voir. Il y a des biomarqueurs qui permettent de voir une consommation excessive, pas de dépendance. Mais encore une fois, c'est le climat de confiance, quoi. Je veux dire, peu importe, il boit ou il boit pas, ou il a moins bu ou il a plus bu, peu importe.
Alors justement,
c'est venir en consulte.
On avait un message tout à l'heure, je ne le retrouve pas, d'une maman qui disait dites aux jeunes que l'alcool fait grossir. Tous ceux qui veulent rester minces, c'est que très rapidement
ils s'en foutent.
Les jeunes, de toute façon, la première des conséquences qui est désastreuse, c'est plutôt sur les facteurs cognitifs, les décrochages scolaires. La violence, je pense aux jeunes filles qui boivent de plus en plus tôt, qui sont violées, qui sont agressées. D'ailleurs, ça me permet de dire que lorsqu'elles portent plainte, le dossier est rarement suivi du fait qu'elles aient bu et qu'elles sont considérées comme non lucides. C'est-à-dire que, en gros, si une femme a bu et qu'elle est violée, tant pis, quoi. On reconnaît pas l'agression sexuelle qu'elle a vécue. Voilà. Donc, je pense que la question du bide, du ventre et du physique peut être importante, certes. Puis d'ailleurs, les hommes commencent à prendre du ventre après 30-40 ans. Moi, je vois des jeunes patients de 18...
Ils n'ont pas forcément bu.
ceux qui boivent, ceux qui ont bu beaucoup de bière, qui ont des antécédents de consommation de bière importante, effectivement, commencent à grossir un peu plus tard.
Et sur l'hérédité, Hélène nous dit, ma compagne me semble dépendante à l'alcool, bien qu'elle s'en défende de retour du travail une bière, puis systématiquement une bouteille de vin. Je l'accompagne, mais elle finit toujours toute seule la plupart des soirs. Je sens une fragilité qu'elle dissimule en buvant et j'ai l'impression de ne pas avoir de prise. Je m'inquiète car son père aussi a été alcoolique puis sevré.
L'hérédité, ça n'explique pas tout, ça explique 40 à 60% des choses aussi. C'est comme le pronostic pour la maladie. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il y a des facteurs personnels, il y a des facteurs cérébraux, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs psychologiques qui interviennent. Donc c'est cette équation de tous ces éléments-là. Parce qu'on avait tendance à dire dans les années 80, l'addiction c'est produit, individu, environnement qui est perturbé. C'est un peu archaïque comme truc. L'hérédité ça joue, mais ça explique pas tout.
Alors justement sur le mécanisme même de la dépendance, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est un problème purement neurobiologique, le fait d'avoir autant de mal justement à décrocher de la boisson?
Oui, si vous voulez, on a quatre circuits de base qui fonctionnent dans les récompenses naturelles. La récompense naturelle, c'est manger, boire et faire l'amour. C'est les trucs de base. Donc c'est quoi? Il y a un circuit qui s'appelle la récompense. Vous avez faim, vous mangez, vous êtes récompensé, le circuit s'allume. Il y a un autre circuit qui s'appelle le circuit de la mémoire et de l'apprentissage. C'est-à-dire que très tôt, vous savez que quand vous avez faim, on va vous donner à manger, etc. C'est mémorisé, il y a un apprentissage. C'est un deuxième circuit qui est connecté. Troisième circuit, c'est le circuit de la motivation. La motivation, c'est changer son comportement en fonction des choses. C'est-à-dire que vous avez faim, vous avez changé votre comportement pour aller manger. Et le dernier, c'est le circuit du contrôle. Qui contrôle tout en fait. C'est quelque chose de très très évolué chez l'homme, qui est au niveau frontal, au niveau cérébral. Dans l'addiction, les substances empruntent ces circuits-là aussi, le circuit de la récompense naturelle, et désynchronisent les circuits. C'est-à-dire que quelqu'un qui est addict, il a que son circuit de la récompense et son circuit de la mémoire et de l'apprentissage qui fonctionnent. La motivation est isolée, le contrôle est isolé. Donc cliniquement, vous avez quoi? Quelqu'un, le cerveau dit l'alcool c'est bon, tout le temps. La drogue c'est bon, tout le temps, parce qu'il y a récompense, mémoire. Et la motivation, ça fonctionne plus, donc vous pouvez toujours dire aux gens, t'as aucune volonté, etc. Ouais, le circuit fonctionne pas. Et circuit de contrôle, vous perdez contrôle.
Ouais. Donc, pour se sevrer, il faut tenter de restaurer finalement ces circuits. C'est ça l'idée,
c'est ça,
finalement.
Absolument. Oui, le traitement, c'est ça.
Et puis justement, dans ces circuits-là, ou dans ces circuits de récompense, si j'ose dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en termes de patience, c'est-à-dire qu'il faut trouver un autre plaisir, une autre défonce pour remplacer ce produit artificiel, qui peut être par exemple, si on parle des prises en charge, des préconisations de faire du sport ou le sport est très important, c'est une façon de réapprivoiser son corps et de sentir comme ça du plaisir au moment où on a l'habitude de boire. D'autres moyens également de puiser dans sa créativité pour trouver une forme de réalisation de son désir.
Et puis cette question de la rigueur Camille, que pensent vos intervenants de l'expression alcoolisme mondain? Est-ce une aberration? Voilà. Est-ce que ça correspond à une réalité? Vous qui sortez beaucoup en soirée, Laurent Carilla.
Moi, je vais en concert surtout.
Mais on boit beaucoup.
Et on boit pas en concert.
Non. L'alcoolisme mondain, oui.
C'est
une forme people. C'est une forme people, peopleisée un peu de dire donc, voilà, je bois en soirée. Quoi.
C'est une rationalisation.
Et après, c'est ceux qui sont vulnérables qui te plongent. Hein. C'est toujours pareil.
Ouais. Donc y a pas, on n'est pas égaux, évidemment, hein, dès le départ aussi à l'alcool, face à l'alcool en tous les cas.
Bien sûr qu'on n'est pas égaux.
Les parcours plus ou moins longs aussi dans le domaine du sevrage. Hein.
Et puis très individualisé, je le répète, effectivement.
Le lobby des alcooliers, on peut en dire un tout petit mot pour terminer.
Oui, alors moi j'ai très envie de parler du lobby des alcooliers, ou en tout cas du marketing qui est destiné à la cible des jeunes et des femmes. Et les femmes, aujourd'hui, mes patientes, en tout cas, sont au vent debout contre toutes ces campagnes qui représentent des femmes élégantes, intelligentes, qui se portent très bien et qui sont très épanouies avec un verre de vin tous les soirs. Elles s'érigent contre les séries et les films dans lesquels on boit en rentrant le soir. Voilà, oui, très court, ça sera ça.
Allez,
j'aurai d'autres choses à dire.
On termine avec Didier, alcoolique pendant 25 ans, au point de boire de l'alcool à 90, mais abstinent, heureux depuis 20 ans.
Bravo,
je trouve
félicitations.
Très bien
Bravo.
D'évoquer le sujet, mais je voudrais qu'on donne plus d'espoir en montrant que même des gens comme moi peuvent s'en sortir.
Évidemment,
bien sûr, on peut
évidemment.
S'en sortir.
On l'a dit,
message
on l'a dit.
Positif.
Et on va terminer avec ce message, justement. Merci beaucoup à tous les deux. Idées reçues sur l'addiction à l'alcool. Ça, c'est Laurent Carilla. Comprendre et sortir de la dépendance, c'est au Cavalier Bleu. Et puis Fatma Bouvet de la Maison Neuve, Les femmes face à l'alcool, c'est chez Odile Jacob, mais c'est sorti en 2008 déjà.
Oui.
Donc on peut le trouver encore, je pense, sur Internet.
Oui, tout à fait, absolument.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et merci aux auditeurs pour les nombreux messages.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Incroyable, les vacances seraient bonnes pour la santé.
Eh oui Mathieu, certains scientifiques n'hésitent pas à enfoncer les portes ouvertes et on prouvera peut-être un jour qu'il vaut mieux être riche en bonne santé que pauvre et malade.
Ah, ouais.
En tout cas, cette news récente a eu un succès important auprès des journalistes qui ont peut-être souhaité envoyer un message subliminal à leur patron. En fait, l'histoire de l'étude qui aboutit à ce résultat est plutôt amusante. Tout commence dans les années 70.
Alors je croyais que c'était récent.
Oui, j'y viens, mais c'est une histoire à tiroir. Donc, dans les années 70, on fait la chasse aux facteurs de risque cardiovasculaires qui viennent juste d'être identifiés. Tabac, hypertension artérielle, cholestérol, manque d'exercice. Mais la médecine scientifique se doit d'évaluer les conseils donnés aux patients, car le simple bon sens peut être trompeur et voire dangereux. Donc, on lance à l'époque des études d'intervention, c'est-à-dire qu'on répartit des volontaires en deux groupes semblables. Le groupe d'intervention bénéficie d'un suivi médical, hygiénique et diététique renforcé, et le deuxième groupe reçoit des soins standards et sert de témoin. Et puis, après quelques années de suivi, on compare le nombre d'infarctus, d'AVC et de décès dans les deux groupes. Cette méthode expérimentale est la seule qui permette d'apprécier avec certitude l'impact d'une stratégie de santé.
Et donc ça a donné quoi ?
Plutôt une catastrophe en fait. Dans les premières études, dont les résultats furent publiés au début des années 80, les sujets qui bénéficiaient de la prise en charge intensive mouraient plus que ceux du groupe témoin.
Et donc, vous êtes sérieux, Dominique ?
Oui, absolument, je vous promets. Et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'on commence à douter de l'intérêt des régimes et des médicaments destinés à faire baisser le cholestérol. Alors, une de ces études était finlandaise. Elle avait pour particularité de ne concerner que des dirigeants d'entreprise. Or, le suivi des deux groupes a été poursuivi à long terme après la publication et a montré que la surmortalité des sujets soumis à un suivi médical strict disparaissait après leur retraite. Bizarre. Les Finlandais ont repris 40 ans plus tard les données de leur étude pour tenter de comprendre ce paradoxe. Et ils ont découvert qu'il y avait 30% de décès en moins chez les dirigeants qui prenaient plus de 3 semaines de vacances par an. Voilà. Ils en ont conclu que le stress était un facteur majeur de mortalité et que leurs injonctions médicales et hygiénistes avaient rajouté du stress dans le groupe d'intervention, annulant ainsi le bénéfice du suivi médical renforcé. En tout cas, c'est ce qu'ils ont pensé. Alors, ça, c'est des données d'observation et non plus de comparaison entre deux groupes. Et il est impossible d'affirmer que ce sont les vacances elles-mêmes qui rallongent la vie. Il y a de nombreux biais possibles. La surmortalité peut être due à une cause qui empêchait les dirigeants de prendre leurs vacances. Donc il est impossible de projeter cette observation sur des salariés qui, de toute façon en France, bénéficient de 5 semaines de vacances.
Bah c'est peut-être pour ça que l'espérance de vie des Français est une des plus élevées d'Europe, non ?
Eh ben ouais, mais enfin, les champions des congés, vous savez, c'est les Estoniens et leur espérance de vie est plutôt basse.
Bon.
Donc attention aux conclusions trouvatives. Mais on s'en fout, vive les vacances !
Ça c'est vrai, on le partage avec vous Dominique Dupagne. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, chronique à réécouter sur franceinter.fr.